Merci Christophe, bonjour à tous. Les chapitres 11 et 12 du livre des Nombres en ouvrent une deuxième partie qui s'étend jusqu'au chapitre 21 par trois récits successifs de révolte de tout ou partie du peuple d'Israël. Ce thème de la rébellion unifie d'ailleurs l'ensemble de cette deuxième grande section du livre qui est centrée par la péricope de Kadesh en Nombres 13, 1, 20, 13. Les deux extrémités de la section Nombres 11, 12 et Nombres 20, 22, 22, 1 sont unifiées par le thème de la marche au désert, rythmées par des notices d'itinéraire et reliées par un vocabulaire commun, le verbe palel en particulier, et par la structure identique de trois récits, Nombres 11, 1, 3, 12, 1, 15 et 21, 4, 9. Dans chacun de ces récits dont la structure est identique, la colère de Dieu débouche sur une sanction dont l'application est interrompue par l'intercession efficace de Moïse, dont l'autorité et le rôle particulier sont ainsi mis en valeur. Dans ce contexte littéraire, l'originalité de la péricope de Nombres 11, 4, 34 apparaît évidente. Elle est reliée à la précédente et au récit qui la suit par l'usage d'une même expression, Vayirach Af, retrouvée en Nombres 11, 1, 10 et 12, 9. Cette formule décrit la réaction divine à la révolte du peuple. Pourtant, le récit de Nombres 11, 4, 34 ne suit absolument pas le schéma narratif des épisodes qui l'encadrent et n'en reprend pas la structure. Il combine de manière assez complexe deux thèmes narratifs, le don de la nourriture, le don des cailles, et l'autre relatif à l'aide que 70 anciens apportent à Moïse pour assumer la charge du peuple. Et ce récit aboutit non pas à une sanction du peuple interrompue par l'intercession efficace de Moïse, mais à une sanction du peuple qui intervient après une réforme institutionnelle effectuée à la demande de Moïse. Dernière singularité du récit, les versets 26-29 qui relatent le don de l'esprit à Eldad et Médad semblent venir contester la réforme institutionnelle décrite par les versets 24-25 et laissent penser que le statut même de Moïse et celui des anciens prêtent à contestation. L'étude de cette péricope doit donc répondre à plusieurs questions. D'une part, Nombres 11-4-34 met en relation des thèmes littéraires et des traditions narratives distinctes et il convient dans un premier temps de préciser l'histoire de la composition du récit. Deuxièmement, le thème de la révolte et le vocabulaire de la colère de Dieu relient Nombres 11, 4, 34 aux autres péricopes de Nombres 11, 12, mais pourtant la structure de ce deuxième récit de la section est originale et la question de sa spécificité idéologique ou théologique se pose donc. Est-ce que ce texte est cohérent ou non avec son contexte immédiat ? Enfin, la finale du récit, on l'a vu, laisse apparaître des tensions non seulement textuelles, mais aussi institutionnelles, reflétées par un jeu d'additions successives, et il faudra mettre au jour, autant que faire se peut, les enjeux du débat qui se noue en Nombres 11, 24, 30. Tout d'abord, quelques mots sur la composition littéraire de ce récit. Deux modèles différents ont été proposés pour rendre compte de cette composition. Le modèle le plus attesté délimite dans le récit deux traditions relativement ancienne, avec des délimitations qui ont quelques variantes. Une tradition concerne la plainte du peuple concernant la nourriture, et l'autre tradition concerne la charge du peuple et l'institution des anciens. Dans les délimitations variables que l'on trouve dans la littérature, le statut des versets 11 à 15 pose le plus de problèmes, on y reviendra. Le second modèle délimite en Nombres 11, 4, 34 un récit ancien qui concerne le don des cailles, qui a ensuite été intégré dans des rédactions successives. Erhard Blum attribue à un compositeur KD le développement de la tradition ancienne concernant les cailles. Reinhard Arenbach, dans le cadre du modèle compositionnel qu'il propose pour le livre des Nombres, envisage comment ce récit ancien a été intégré successivement à une rédaction hexatocale, puis à une rédaction pentatocale. Enfin, Thomas Römer considère que ce récit est une Fortschreibung tardive de type midrashique, qui présuppose déjà la combinaison de la tradition concernant la manne et de la tradition relative aux cailles en Exode 16. Quoi qu'il en soit de ces tentatives diachroniques de mise au jour de l'histoire de la composition du récit, l'analyse littéraire du texte met en évidence de nombreux indices qui témoignent d'une rédaction soignée. Une rédaction soignée qui a pour objet l'unification de la péricope, hormis les versets 26 à 29, une unification qui rend relativement indissociable la thématique de la plainte pour de la viande et du don de la caille d'une part et la thématique de la charge du peuple et du don de l'esprit d'autre part. La figure de style qui unifie les versets 11 à 15 ainsi que les nombreux jeux de mots et de vocabulaire qui relient les deux thèmes principaux du récit caractérisent cette composition qui a pour objet d'unifier la péricope. Donc sur les feuilles distribuées, vous avez d'une part les éléments qui permettent effectivement de retrouver une belle figure de style au verset 11 à 15 reliant les deux thèmes déjà cités, une figure de style centrée par le verset 13. Et puis, toujours sur votre feuille, vous voyez les nombreux jeux de mots qui, au fond, rythment le récit. Il y avait prélève de l'esprit, rouar, pour donner aux anciens cet esprit, mais c'est le vent rouard qui va apporter l'écaille. Un ramassis, asafsouf, c'est un apax dans la Bible hébraïque, se trouve au milieu du peuple. Ce ramassis est pris de convoitise. Et à la fin, c'est le peuple d'Israël qui va ramasser asaf, la caille. Et ce même verbe asaf désigne également le rassemblement des 70 anciens à l'attente de la rencontre. Yahvé s'engage à donner Nathan de la viande et il donne également Nathan l'esprit de prophétie. La manne descend sur le camp Yarad et Yahvé lui-même descend Yarad pour prélever l'esprit de Moïse et le donner aux anciens. Le texte biblique joue donc sur les mots. Il utilise l'artifice de mots agraphes pour souligner la relation qui, dans le texte que nous lisons aujourd'hui, est instituée entre les diverses traditions littéraires qui le composent. Il convient donc d'appréhender Nombre 11-4-34 comme un récit unifié pour en proposer une interprétation dans son contexte d'énonciation, une série de trois révoltes de tout ou partie du peuple suscitant la colère de Yahvé. C'est donc la deuxième partie de cette présentation, Nombre 11-4-34 dans son contexte, avec donc la thèse que ce récit sert à la mise en valeur de la spécificité de la mission et du personnage de Moïse. Le récit ménage au lecteur une surprise. Le verset 10 le rattache par le vocabulaire de la colère de Yahvé au récit qui le précède, la révolte de Tavera, et à celui qui le suit également, la rébellion de Myriam. Cependant, le déroulement du récit est totalement différent. L'expression de la colère de Yahvé n'est suivie d'aucune sanction immédiate, et la première mention du personnage de Moïse s'accompagne d'une formulation ambiguë, difficile à interpréter. « Vayirah af Adonai me'od » ou « Ve'einei Moshe ra ». Alors, comment interpréter ce « ra » ? Moïse réagit-il à la colère de Dieu ou simplement à la révolte du peuple, ajoutant sa condamnation à celle du Seigneur ? Dans la mesure où le récit de Nombre 11-4-34 est précédé et suivi de récits de révolte dans lesquels Moïse agit comme intercesseur efficace, mettant un terme à la colère de Yahvé, il apparaît plausible, je dis bien plausible, je ne m'engage pas plus avant, d'interpréter le verset 10b bêta comme une réaction de désapprobation de Moïse. La colère de Yahvé, dont la conséquence est destructrice pour le peuple, serait incompatible avec la survie de ce dernier, dont se préoccupe avant tout Moïse, comme le montre le discours des versets 11 à 15. L'urgence n'est donc pas de sanctionner, mais de répondre de manière efficace à la plainte du peuple. Le discours de Moïse constitue la deuxième surprise du récit. Il s'agit d'un discours de plainte qui semble situer le personnage de Moïse du côté des rebelles, de ceux qui contestent le projet divin ou doutent de sa pertinence. C'est pourquoi la réponse divine aux versets 16 et 17 constitue une troisième surprise. La plainte amère de Moïse ne suscite aucune sanction, mais constitue le point de départ d'une réforme institutionnelle qui a pour objet de le rendre capable d'effectuer sa mission sans que sa primauté soit contestée. C'est en effet une part de l'esprit qui est en Moïse qui est prélevée pour être donnée aux anciens. Le don de l'esprit aux anciens n'est donc pas un don direct, sans intermédiaire, il requiert la médiation de Moïse. Comme le fait remarquer Reinhard Achenbach, la reconstitution d'un groupe d'anciens est rendue nécessaire dans l'économie narrative de la Torah par la crise idolâtre d'Exode 32. Les 70 anciens présents lors de la conclusion de l'Alliance en Exode 24:1-9 sont disqualifiés par leur révolte et le récit de Nombre 11 peut être considéré comme un supplément tardif qui restaure dans le contexte du livre des Nombres cette institution non sacerdotale. Il est clair que la mise en place d'un tel groupe ne trouve pas sa place dans la logique institutionnelle post-sacerdotale, reflétée par toute la première partie du livre, les 10 premiers chapitres, reflétée également par les récits et les lois de Nombre 16-18, et reflétée surtout par la troisième partie du livre, dans laquelle le grand prêtre Éléazar est présenté comme le premier responsable cultuel et politique de la communauté d'Israël. L'institution des anciens qui bénéficient du don de l'esprit prélevé sur Moïse met en relief le charisme spécifique de Moïse et propose en même temps une alternative au gouvernement sacerdotal mis en valeur par les sections législatives et par la dernière section du livre des Nombres. Envisageons maintenant le lien qui peut exister entre Nombre 11-1-3, premier récit de colère, Nombre 11-4-34, deuxième récit, et Nombre 12-1-15. La spécificité théologique de Nombre 11-4-34 a été précisée, mais comment envisager les relations de ce récit avec les péricopes qui l'encadrent ? Ces relations sont débattues. Perlit oppose l'approche de Nombre 11-24, qui envisage l'action prophétique conjointe de Moïse et d'un groupe de 70 anciens. Il oppose cette approche et celle de Nombre 12, 6, 8, qui viendrait corriger, d'une certaine mesure, Nombre 11, 24 et suivant, en établissant une césure claire entre Moïse et les autres prophètes. Au contraire, Erhard Blum considère que les récits de Nombre 11 et 12 traitent l'un et l'autre d'un même thème, le lien entre Moïse et la prophétie, en s'adressant à des groupes divers. En Nombre 11, l'esprit dont bénéficient les anciens n'est autre que celui de Moïse, mais il est seulement l'esprit de Moïse. Et la supériorité de Moïse est, selon Blum, établie par le récit lui-même, ce qui correspond exactement à la perspective de Nombre 12, qui aboutit à la même conclusion par un autre raisonnement. Yahvé parle véritablement au prophète, mais sa manifestation à Moïse est exclusive, personnelle et inégalable. Plus récemment, Thomas Römer a souligné le contraste qui existe entre Nombre 11 et Nombre 12, tandis que Nombre 11 développe une conception charismatique et prophétique d'Israël qui n'a pu se développer qu'à une époque tardive, comme le suggèrent les parallèles avec Isaïe 59, Isaïe 63. Nombre 12 aurait pour fonction de mettre en relief le rôle et le statut exclusif de Moïse qui seul voit la Temunat Adonai. Le récit de Nombre 12 pourrait ainsi, au sein de la Torah, être rapproché des traditions qui soulignent l'autorité et le statut incomparable de Moïse, comme par exemple la conclusion du Deutéronome en Deutéronome 34, 10 à 12. Comment alors articuler les observations de Perlit et de Römer d'une part, qui mettent en relief les contrastes qui opposent Nombre 11 et Nombre 12, et d'autre part les remarques d'Erhard Blum? Le cadre littéraire des chapitres 11 et 12 du livre des Nombres invite sans doute le lecteur à interpréter les trois récits qui le composent comme un ensemble cohérent au-delà de la diversité thématique de ces textes et de l'originalité de Nombre 11, 4, 34. En effet, la formule crochet Vayirach Af invite à penser ces différentes péricopes comme les membres d'une série qui a une certaine homogénéité. La question qui se pose alors est donc celle de l'éventuelle complémentarité des éléments de la série. De nombreux termes crochets soulignent la connivence et les jeux de mots qui existent entre les trois récits eux-mêmes et également entre ces trois récits et le récit d'intercession de Nombre 21, 4, 9. D'abord, le verbe « itpalel » est utilisé en Nombre 11, 2 et 21, 7, ce qui signifie que l'ensemble de cette section du livre des Nombres, qui concerne la marche au désert et le séjour à Kadesh, se trouve maintenant encadré par des récits qui mettent en lumière l'efficacité de l'intercession de Moïse, comme le fait également, avec un autre vocabulaire, le dialogue de Nombre 14, 11, 20 entre Moïse et Yahvé. D'autre part, en Nombre 11, 2, le verbe « tsa'ak » crier a pour sujet le peuple qui s'adresse à Moïse, et en Nombre 12, 13, c'est Moïse lui-même qui crie vers Yahvé pour qu'il guérisse Myriam. Ainsi, selon le récit, Moïse est reconnu par le peuple comme un intercesseur efficace, et il joue également ce rôle de sa propre initiative. Troisième remarque, Yahvé est le sujet du verbe « shama » en Nombre 11 et en Nombre 12, 2, tandis que Moïse en est le sujet en Nombre 11, 10. La réaction première de Yahvé qui entend la révolte et la colère, tandis que celle de Moïse consiste à tenter d'honorer la demande du peuple. Tous ces jeux de vocabulaire contribuent donc à souligner la spécificité de la mission de Moïse, qui est un avocat efficace du peuple d'Israël, qui entretient avec Yahvé une relation privilégiée, lui permettant d'entrer en dialogue avec lui. Les trois récits de Nombre 11-12 mettent en relief des aspects différents, mais complémentaires de la mission et du statut spécifique de Moïse. Le bref récit de Nombre 11-1-3 présente Moïse comme un intercesseur efficace. Cet aspect de sa mission sera repris et développé en Nombre 14-11-20, puis de nouveau au terme de la deuxième section du Livre des Nombres en Nombre 21-4-9. Le récit de Nombre 11-4-34 montre comment le don de l'esprit qui est fait aux 70 est celui de l'esprit dont Moïse lui-même a bénéficié le premier, et ce récit met donc en lumière la primauté de Moïse vis-à-vis du groupe des 70. Enfin, le récit de Nombre 12 confirme l'existence d'une différence de statut entre Moïse et les prophètes. Seul Moïse a le privilège de parler directement avec Yahvé et de voir la Temunat Adonai. Ces différents éléments convergent pour envisager non seulement Nombre 11-12, mais également Nombre 14-11-20, Nombre 21-4-9, comme des récits ayant en commun la mise en valeur de la responsabilité unique de Moïse au service de la pérennité de la relation qui unit Yahvé et le peuple d'Israël. Cependant, au sein du récit de Nombre 11-4-34, les versets 26 à 29 semblent venir contester une telle perspective. Donc, essayons de voir comment. Ces versets ont un statut particulier. Ils introduisent des personnages jusque-là totalement absents du récit, Eldad et Médad, Il constitue une unité narrative brève et cohérente qui se greffe sur l'intrigue développée par les versets 11 à 17, 24 et 25, puis 30. Mais ces versets 26 à 29 ne sont pas indispensables à la résolution de cette intrigue. Ils viennent, nous l'avons dit, contester le récit qui les précède, puisque selon Nombre 11, 24 à 25, les 70 anciens possèdent l'exclusivité de l'activité de prophétie qui résulte du don de l'Esprit. En présentant Eldad et Médad comme les sujets d'une activité prophétique accréditée par Moïse, le récit des versets 26-29 vient remettre en cause cette exclusivité. Si j'avais du temps, je vous parlerais de quelques éléments de critique littéraire de cette section. Il y a en particulier, et de critique textuelle d'abord, il y a la finale du verset 25 qui conduit à une hésitation sur la nature de l'activité prophétique qui est celle des 70. Est-ce que cette activité est amenée à durer ou est-ce qu'au contraire c'est une activité éphémère ? Je n'insiste pas sur ce point. En critique littéraire, on peut remarquer que les versets 26-29 eux-mêmes ont une construction assez compliquée, avec en particulier une apposition au verset 26 qui est sans doute plus tardive, « Vehema bakketuvim », ils étaient parmi les inscrits. Donc au fond, il semble que le récit ait été ici corrigé pour normaliser d'une certaine manière l'activité pourtant subversive d'Eldad et Médad. Cette expression « Vehema bakketuvim » m'a fait réfléchir Yaakov Milgrom, qui rapproche ce supplément tardif du récit du recensement de Nombre 1. Il envisage le fait que les résultats du dénombrement de la communauté d'Israël soient soigneusement consignés par écrit dans le livre des Nombres, et donc il en déduit par analogie que Nombre 11-26 fait allusion à une liste écrite des anciens, mais le vocabulaire est différent et je ne crois pas qu'on puisse le suivre sur ce point. Quoi qu'il en soit, essayons de voir ce qu'il en est de l'activité prophétique d'Eldad et Médad. Donc elle est décrite avec le même verbe « itnabé » que l'activité prophétique qui est celle des anciens. Ce verbe n'est pas très spécifique. Une étude de concordance dans la Bible hébraïque montre qu'il peut désigner une activité extatique ou délirante, qui est le fait des prophètes de Yahvé ou des prophètes des Baals d'ailleurs. Il est parfois utilisé également pour décrire l'activité des faux prophètes qui vont égarer le peuple. Et puis, il désigne parfois une activité prophétique qui est exercée au nom de Yahvé et qui est accompagnée cette fois d'un message susceptible d'être compris par ses destinataires. Le récit de Nombre 11, 24, 30 ne mentionne quant à lui aucun discours de type prophétique et ne fait référence à aucune activité délirante ni extatique. En réalité, ce texte ne paraît pas avoir pour objet de décrire précisément la nature de l'activité prophétique à laquelle se livrent les anciens d'une part et Eldad et Médad d'autre part. La pointe du texte semble se situer ailleurs. En effet, tant pour les 70 anciens que pour Eldad et Médad, l'activité prophétique dont il est question ici a une spécificité. Elle est exercée au nom de Yahvé. Elle procède d'un don de l'esprit dont Yahvé a l'initiative. Mais tandis qu'en Nombre 11, 24, 25, le don de l'Esprit est conditionné par l'appartenance au groupe des anciens, par la médiation de Moïse, par la participation à une liturgie à l'attente de la rencontre, Nombre 11, 26, 29 accrédite la possibilité d'un tel don sans intermédiaire et sans limitation. C'est tout le peuple qui est appelé à en devenir le bénéficiaire. Le vocabulaire utilisé en Nombre 11, 26, 29 conduit en tout cas à identifier ce texte comme tardif. Le parallèle qui existe en particulier entre Nombre 11-29b et Joël 3-1 est classique. Les deux textes ont en commun de décrire un don universel de l'Esprit en lien avec une activité prophétique. Les perspectives eschatologiques de Joël 3 ne sont évidemment cependant pas retrouvées en Nombre 11. Le discours de Moïse a en Nombre 11 pour fonction de contester une conception restrictive du don de prophétie exprimée par le discours de Josué au verset 28. Ainsi, les personnages d'Eldad et Médad symbolisent et représentent le peuple dans son ensemble. À travers ces deux personnages, c'est Israël tout entier qui est invité à se reconnaître comme peuple prophétique du fait du don de Yahvé. Le supplément mettant en scène Eldad et Médad invalide donc, d'une certaine manière, le contrôle institutionnel du don de l'Esprit tel qu'il apparaît en Nombre 11, 24, 25. En Nombre 11, 26, 29, celui-ci n'a plus lieu en présence de Moïse ni à l'attente de la rencontre. Pour le dire autrement, l'esprit donné par Yahvé rejoint directement les croyants. Cette affirmation n'est pas sans rappeler des formulations prophétiques assez polémiques, comme celle de Jérémie 31, 31, 34. « Je donnerai mes taureaux en eux, je les écrirai sur leur cœur », verset 33, ou encore « Ils ne s'instruiront plus entre prochains, entre frères », verset 34. On peut interpréter ces oracles comme la critique d'une compréhension de la révélation qui se limiterait à une Torah écrite, transmise par des scribes. Le supplément de Nombre 11, 26, 29 viendrait ainsi contester, selon une perspective prophétique tardive, la compréhension de la révélation reflétée par le récit des anciens en Nombre 11, 24, 25 et 30. Il est temps de rassembler les différents éléments que nous avons envisagés pour conclure. Le récit de Nombre 11, 4, 34 constitue donc, hormis les versets 26, 29, une composition littéraire unifiée, qui, dans le cadre des trois péricopes de Nombre 11, 12, reliés par le thème de la colère de Yahvé, met en valeur le rôle particulier de Moïse au service de la relation qui unit Yahvé et son peuple. Une telle mise en valeur du rôle de Moïse contredit naturellement la perspective de la composition d'ensemble du livre des Nombres, une composition d'ensemble dont les sections législatives et la troisième partie présentent le grand prêtre comme dépositaire de l'autorité cultuelle et politique dans la communauté d'Israël. Les chapitres 11 et 12, l'intercession de Nombre 14, 11 à 20 et enfin le récit de Nombre 21, 4 à 9 ont en commun de mettre en relief au contraire l'autorité de Moïse et rejoignent en cela d'autres textes de la Torah comme Exode 33, 11, Exode 34, 29 ou encore la finale du Deutéronome. Ces récits pourraient donc avoir pour fonction d'ancrer le livre des Nombres, post-sacerdotal, théocratique et hiérocratique, dans la Torah, une Torah désormais unifiée autour du personnage de Moïse. Quant aux versets 26 à 29 du chapitre 11, ils expriment une distance vis-à-vis de la médiation mosaïque de la révélation et donc vis-à-vis du rôle prééminent de la Torah que cette idée véhicule. Ils sont sans doute l'expression d'une contestation prophétique tardive qui ne reconnaît pas aux scribes l'exclusivité de la transmission de la révélation. Je vous remercie.